Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du jeudi 16 mai 2019. Morgane Guériec et Abdourahman Dia, la présentation, voici les titres.
Le groupe État islamique revendique l'embuscade qui a coûté la vie à 28 militaires au Niger, où a débuté ce jeudi un deuil national de 3 jours.
Au Bénin, la nouvelle législature s'est ouverte ce jeudi sous haute surveillance et sans l'opposition qui n'a pas pris part aux élections du 28 avril.
Au Soudan, les leaders du mouvement de contestation disent regretter la suspension des négociations sur une transition.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche dévoile sa réforme sur l'immigration.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal.
Des inondations ont fait au moins 15 morts à Bamako ce jeudi. Les autorités font état de dégâts matériels importants. Des équipes de recherche et de sauvetage sont d'ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse, indique le gouvernement.
Le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué l'embuscade meurtrière contre une patrouille militaire qui a fait 28 morts et plusieurs blessés mardi 14 mai à Tongo-Tongo, dans la région de Tillaberi. Dans un communiqué publié ce jeudi par ACMI, AMAC News Agency, l'agence de presse officielle de l'État islamique, le groupe EIGC a confirmé avoir tendu une embuscade à des éléments de l'armée nigérienne près de la frontière avec le Mali. Précision de notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Selon l'agence AMAC qui a publié le communiqué ainsi que des images des combattants en pleine célébration, l'État islamique dans le Grand Sahara annonce avoir fait 40 victimes, des morts et des blessés. Le groupe a également indiqué avoir mené l'assaut avec de l'armement léger et lourd, saisi 3 véhicules et d'importantes quantités de matériel militaire. Dans le communiqué diffusé en arabe, l'État islamique du Grand Sahara a aussi revendiqué les attaques lundi 13 mai dernier de la prison de haute sécurité de Koutoukalé, de l'église de Dolbel ainsi que de la localité de Mangaizé. Dans son communiqué, le groupe terroriste a fait savoir que les moudjahidines qui ont mené l'assaut sont rentrés sains et saufs à leur base sans aucune perte dans leur rang. Ce n'est pas la première fois que le groupe État islamique dans le Grand Sahara, qui est surtout actif au Mali, revendique une attaque de grande envergure au Niger et dans la même région. En octobre 2017, c'est le même groupe qui a revendiqué l'attaque près de Tongo-Tongo d'une patrie militaire mixte composée de soldats nigériens et américains. À Niamey, c'est encore le choc. Le bilan de 17 soldats annoncé hier est passé à 28 selon des sources jusqu'ici pas contredites par la voix officielle. Ce sont, semble-t-il, les 11 militaires qui manquaient à l'appel qui ont été retrouvés morts dans les environs de l'embuscade. Le deuil national de 3 jours décrété est suivi à travers le pays où les drapeaux sont mis en berne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective. Il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale, estime le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et ces fléaux doivent être traités avec la même détermination que celle qui a prévalu en Irak et en Afghanistan, a déclaré Alpha Barry lors d'une réunion consacrée au Sahel.
Le terrorisme était également au cœur des propos du Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré devant le Parlement. Le terrorisme qui apparaissait il y a quelques années comme une menace à nos frontières est aujourd'hui une réalité brutale et cruelle qui tisse sa toile dans tout le pays, a-t-il déclaré. Nous y reviendrons en partie magazine.
Togo, le gouvernement annonce la création d'un comité interministériel pour lutter contre les risques de propagation des violences djihadistes à partir des pays voisins. La nouvelle structure vise à donner aux communautés les outils et le soutien dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau et renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité pour une prévention et une lutte efficace, explique le gouvernement.
Au Bénin, les 83 députés élus lors du scrutin controversé du 28 avril, dont l'opposition avait été exclue, ont été installés aujourd'hui à l'hémicycle à Porto Novo. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place, notamment aux abords du Parlement. Irénée Armandongo.
Des engins de l'armée, des policiers, des militaires et armes étaient déployés autour du siège du Parlement, entourés de nombreuses barricades. Des détachements de policiers et de militaires, ainsi que des engins blindés ont également été déployés dans des localités voisines comme Semekoji. L'accès au siège du Parlement était très filtré et tout attroupement interdit dans la cour et aux alentours. Les 83 députés ont gagné l'hémicycle dans une ambiance bon enfant, échangeant des embrassades. Ils sont tous issus de l'un des deux partis proches du pouvoir du président Patrice Talon, le Bloc républicain et l'Union progressiste, seule formation autorisée à participer au scrutin. Les rues étaient calmes, les habitants habitués à venir ovationner le passage des nouveaux parlementaires ayant préféré rester à la maison. Mardi, l'ONG Amnesty International avait dénoncé une répression post-électorale aux proportions inquiétantes dans un pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola en RDC, la Croix-Rouge avertit que le grave manque de financement pourrait l'obliger à réduire ses activités alors que le nombre de cas monte en flèche.
Le chef du gouvernement du mouvement de contestation au Soudan a qualifié de regrettable la décision des militaires de suspendre 60 pour 72 heures les négociations sur la transition politique et affirmé leur intention de maintenir le sitting de Khartoum. Nathalie Barche.
Les deux parties devaient plancher hier soir sur la composition d'un conseil souverain, mais les généraux ont décidé de faire une pause à cause de la dégradation sécuritaire à Khartoum. Le chef du conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhan, a demandé le démantèlement des barrages routiers, l'ouverture de ponts, ainsi que la fin des provocations à l'égard des forces de l'ordre. Des mesures essentielles pour ouvrir la voie à un accord de transition, a-t-il soutenu. Cette décision est regrettable, ont rétorqué les chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, estimant que si la réunion de mercredi avait progressé vers un accord, cela aurait mis fin au barrage routier. L'armée s'est défendue de vouloir démanteler le sit-in de Khartoum, mais veut empêcher les entraves à la circulation. Le général Burhan a déploré la fermeture d'une ligne de chemin de fer. Et l'ALC a répondu qu'elle était ouverte depuis le 26 avril, évoquant ses efforts pour contenir les manifestants dans le périmètre du principal sit-in.
Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a discrètement reçu ce matin à Rome le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a lancé une offensive sur Tripoli. « Nous voulons un cessez-le-feu et nous considérons la voie politique comme l'unique solution », a déclaré Monsieur Conte. Le président français Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué la présidence française.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump annonce en ce moment même son projet de refonte du système d'immigration des États-Unis. Ce projet doit augmenter le niveau d'exigence des compétences des travailleurs étrangers. Claire Morin-Gibourg.
Le nombre de cartes vertes accordées devrait rester stable, environ 1,1 million par an. Par contre, elles seront accordées en priorité à des personnes hautement qualifiées, ayant des perspectives d'emploi ou d'investissement, plutôt que des personnes justifiant de regroupement familial ou de besoins humanitaires. Un haut responsable de la Maison-Blanche a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un problème de compétitivité. Aujourd'hui, seulement 12% des immigrants sont autorisés à venir aux États-Unis sur la base de leurs compétences et 66% en raison des membres de leur famille résidant légalement dans le pays. Dans le cadre du nouveau plan de l'administration Trump, 57% des visas seront accordés au titre des compétences, 33% pour les regroupements familiaux et 10% pour des besoins humanitaires. Ce plan éliminerait complètement la loterie à la carte verte, offerte chaque année à 50 000 personnes originaires de pays à faible taux d'immigration aux États-Unis.
Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, s'est lancé aujourd'hui dans la course à la présidentielle américaine 2020, devenant le 23e candidat à vouloir défier Donald Trump. La réaction de Donald Trump n'a pas tardé. Bill de Blasio est considéré comme le pire maire des États-Unis, a-t-il tweeté.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, écarte toute possibilité de négociation avec les États-Unis, susceptible de réduire les tensions croissantes dans le Golfe.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique dans la Minute Éco, présentée par John Lindon.
Une nouvelle banque bientôt en activité en Guinée, selon nos confrères de Jeune Afrique qui révèlent cette information. La première banque nationale d'investissement, la BNIG, devrait être opérationnelle en octobre de cette année. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État guinéen, représenté par le président Alpha Condé, et l'homme d'affaires camerounais Paul Fokam, président et fondateur de Afriland First Group. La Banque nationale d'investissement de Guinée entend faciliter l'obtention des crédits aux entrepreneurs guinéens en se positionnant comme un établissement à mi-chemin entre les banques classiques qui pratiquent très souvent des taux d'intérêt élevés et les microfinances dont les offres restent limitées. Environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Voilà qui constitue la thématique de la 8e édition du Forum économique de la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous économique est prévu du 17 au 18 octobre 2019. Jean-Marie Akka, président du patronat ivoirien, a ainsi procédé hier à Abidjan au lancement officiel de cet événement où plus de 1000 chefs d'entreprise sont attendus. 100 millions de dollars, c'est le montant du prêt que la BAD, la Banque africaine de développement, vient d'approuver dans le cadre d'un appui à la création de la Kenya Mortgage Refinance Company. Cette enveloppe doit permettre aux ménages à revenus moyens d'accéder plus facilement aux prêts hypothécaires abordables. Le Financial Afrique, qui publie cette information, indique qu'il s'agit d'une initiative conjointe du gouvernement kényan et de la Banque centrale.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Athlétisme, Usain Bolt tourne le dos à Caster Semenya.
Oui, la championne sud-africaine n'aura pas le soutien d'Usain Bolt dans le litige qui l'oppose à la Fédération internationale d'athlétisme. Le sprinteur jamaïcain a indiqué qu'il faut appliquer les règles. J'ai entendu parler de cette histoire sans la suivre de très près. Pour moi, ce sont juste les règles. Je ne fais pas le règlement, mais je l'applique, a déclaré Bolt, débouté par le tribunal arbitral du sport le 1er mai. Après avoir déposé un recours contre ce règlement, Caster Semenya a reçu le soutien de son pays qui a annoncé qu'il fera appel de cette décision devant le tribunal fédéral suisse.
Football, Robert Lewandowski, courtisé par le PSG et Manchester United.
Oui, le buteur polonais du Bayern Munich a reçu des propositions de transfert du Paris Saint-Germain et de Manchester United. D'après le magazine allemand Kicker, le FC Bayern voudrait prolonger le contrat de son buteur jusqu'en 2022, mais le plan peine à se mettre en place, rapporte Kicker, qui ajoute que ce calendrier pourrait ne pas convenir au Polonais qui a actuellement des propositions de Manchester United et du Paris Saint-Germain. En fin de saison 2017-2018, Lewandowski n'avait pas caché son ambition de changer de club. À 30 ans, il rêve de remporter la Ligue des Champions, qu'il n'a jamais gagné avec le Bayern depuis son arrivée au club en 2014.
Harry Kane, de retour dans le groupe de l'Angleterre.
L'avant-centre et capitaine de l'Angleterre a été inclus dans un premier groupe de 27 joueurs constitué par le sélectionneur Gareth Southgate en vue du Final Four de la Ligue des Nations. Harry Kane n'a plus joué depuis sa blessure au ligament d'une cheville subie en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City le 9 avril. Le buteur a néanmoins déclaré la semaine dernière qu'il espérait être rétabli à temps pour jouer la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool le 1er juin à Madrid. En Ligue des Nations, les trois Lions doivent rencontrer les Pays-Bas en demi-finale. Le 6 juin à Guimarães au Portugal.
Et en NBA, Milwaukee se fait peur face à Toronto.
Oui, Milwaukee a mis du temps pour digérer une catastrophique première période avant de s'imposer à domicile face à Toronto 108-100 dans le premier match de la finale de la conférence Est. Les Bucks, meilleure équipe de la saison régulière, sont passés tout près de la catastrophe face aux Raptors qui ont débuté la rencontre sans faire aucun complexe. Le salut pour les Bucks est venu de Gianni Antetokounmpo, 24 points et 14 rebonds, mais surtout de Brook Lopez qui a fini la rencontre avec 29 points, nouveau record personnel en playoff. Milwaukee mène donc une victoire à zéro avant le match numéro 2 qui aura lieu de nouveau dans sa salle demain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Morgane Guerriec et Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré était face aux députés pour son premier discours sur la situation nationale, un discours dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes de Ouagadougou, le compte-rendu de Lamine Traoré.
Le Premier ministre a reconnu devant l'Assemblée nationale que la situation sécuritaire du pays est délétère, un pays qui enregistre de nombreuses attaques terroristes depuis 2015.
Au cours de l'année 2018, notre pays a connu de nombreuses attaques terroristes et a occasionné plusieurs victimes.
Le Premier ministre Christophe Dabiré.
À ces actes barbares que je condamne avec force, s'ajoutent des prises récurrente d'otages portant à la fois sur des personnalités nationales et étrangères. Le terrorisme, au-delà des attaques aux symboles de l'État, a mis en œuvre sa stratégie de diviser pour régner par le biais des conflits communautaires à caractère ethnique et à travers des attaques ciblées contre les édifices et manifestations religieuses. Nous avons bien perçu ce projet de déstabiliser le pays en provoquant le chaos. Mais nous n'allons pas baisser les bras ni fermer les yeux devant le déroulement d'un dessein aussi funeste.
Le chef du gouvernement a décliné ce qu'il compte faire pour mieux lutter contre le terrorisme. Christophe Dabiré.
Le gouvernement poursuivra les efforts d'équipement des unités de nos forces armées et de nos forces paramilitaires en moyens stratégiques et spécifiques, assurera leur formation, accroîtra les effectifs, renforcera et mutualisera enfin les systèmes d'information grâce au partenariat avec les pays de la sous-région et avec les pays amis hors d'Afrique.
Au-delà de la situation sécuritaire, le Premier ministre a fait le point de plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation, l'énergie. L'opposition ne voit pas d'amélioration majeure dans la gestion du pays de 2018 à maintenant.
Ce discours n'a pas varié, contrairement aux autres discours qu'on a déjà entendus.
Moussa Zerbo est de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement, principal parti d'opposition.
Nous attendons toujours ce bilan qui ne nous satisfait pas trop, surtout sur les aspects sécuritaires et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y a des efforts qui sont faits, mais en tout cas, on reste toujours sur notre faim et nous pensons que le gouvernement doit bouger encore plus.
Le discours du Premier ministre était réaliste et fédérateur, selon le pouvoir. Barakissa Ouédraogo, député du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir.
Je sens vraiment un discours réconfortant, malgré la situation que nous vivons. Un discours de paix, vraiment un discours engagé qu'il a prononcé ce matin à l'hémicycle. C'est très satisfaisant.
Le gouvernement demande l'union de tous les Burkinabés pour vaincre ce fléau qu'est le terrorisme. Depuis 2015, les violences ont fait plus de 300 morts au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. Dans le nord du pays, des églises et des responsables religieux sont désormais la cible d'attaques attribuées à des groupes djihadistes. Que sait-on de leur identité? Que veulent-ils et pourquoi ce changement de mode de fonctionnement? Quelle riposte contre le terrorisme dans ce pays? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h, en temps universel.
La justice burundaise a ordonné la saisie des biens, notamment immobiliers, d'une trentaine d'opposants en exil et de 9 militaires condamnés à la perpétuité pour leur participation au coup d'État manqué de 2015. Cette décision a été prise à la demande du président burundais Pierre Nkurunziza. Parmi les personnes touchées par cette mesure, Innocent Muhoozi, directeur général de la radio Télé Renaissance, et Kabadou Lajoint à Kigali au Rwanda où il vit.
C'est un abus de plus. On ne compte plus les abus qui se commettent au pays parce qu'on prend une décision judiciaire comme celle-là sans qu'on ait eu un jugement, sans qu'on ait été condamné par la justice. Jamais on peut parler encore de justice au Burundi. C'est totalement arbitraire. C'est des mesures plutôt de pression, de rétorsion, surtout de tentative de faire encore plus de mal aux gens que le système n'a pas réussi à tuer ou à mettre en prison simplement.
Selon vous, faire partie de cette liste, c'est une erreur ?
Ce n'est pas une erreur en fait, ce n'est pas une erreur. Ils mettent sur la liste, sur les listes, disons, des gens qui le recherchent, qu'ils considèrent comme ayant participé à la tentative de coup d'État, tous ceux qui ont exprimé leur désaccord, le fait que le président ait brigué un troisième mandat, ok, il n'avait vraiment pas le droit, mais surtout ceux qui dénoncent, continuent à dénoncer les crimes de sang, les tortures, les viols, les spoliations diverses, les emprisonnements arbitraires qu'il y a dans le pays, ceux qui continuent au quotidien à parler de ces crimes-là, ils les considèrent comme tous des putschistes, en fait, des ennemis du pays, des ennemis du régime, et essaient de réagir à cela par tous les moyens qu'ils peuvent encore avoir à leur disposition. Ce n'est que cela, c'est un règlement de compte pour différence de choix par rapport à ce qui se passe dans le pays, tout simplement.
Alors, différence de choix, vous n'êtes pas putschiste, mais considéré comme putschiste selon vos mots. Vous qui vivez aujourd'hui au Rwanda, quels sont les recours possibles selon vous pour récupérer une partie de vos biens? Est-ce que c'est définitivement perdu et ça va donc partir à la solde du gouvernement?
Ça ne nous inquiète absolument pas, parce que ce que fait le gouvernement actuel, en fait, nous savons tous très bien que quand il ne sera plus là, quand il y aura une véritable justice, nous serons rétablis dans nos droits sans aucun doute. Moi, je ne m'inquiète pas outre mesure par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Le pire, c'est ce qu'ils font subir aux gens qui sont à l'intérieur, qu'ils peuvent tuer, qu'ils peuvent emprisonner, qu'ils peuvent torturer. Nous qui sommes à l'extérieur, justement, tout ce qu'on risque, c'est ce genre de spoliation et autres injustices du genre. Mais sinon, ce ne sont pas des choses qui nous inquiètent, parce que nous savons très bien que nous recouvrerons nos droits une fois que ce système ne sera plus en place.
Alors, ce système ne sera plus en place, vous avez espoir que cela change ?
Ben, ça changera inévitablement, parce qu'on ne peut pas penser qu'un système qui tue tous les jours, qui torture tous les jours, qui prive tous les citoyens qui sont restés au pays des droits élémentaires, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifester, d'exprimer son opinion, qui est en train encore une fois de vouloir se perpétuer avec les élections de l'année prochaine, qui a pourvu le pays de manière catastrophique. Tout ce qu'ils vont là-bas, tous les chiffres qui sont dans les différents rapports internationaux l'attestent. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer.
Innocent Mouzi, journaliste joint à Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
L'économie du Zimbabwe est enlisée dans d'énormes difficultés avec le secteur agricole qui souffre toujours de la réforme agraire de l'ancien président Robert Mugabe. Les agriculteurs ont manifesté leur frustration à Shinogi, ville natale de Mugabe où la ZANU-PF au pouvoir reste très populaire. Notre correspondant Columbus Mayunga s'est rendu sur place. Le récit de son reportage avec Lou Ndiaye.
Shinhoyi est à quelques 120 km au nord-ouest de Harare. C'est une ville acquise à la ZANU-PF. Samedi dernier, des agriculteurs y ont ouvertement exprimé leur colère. Doug Tyler Frimé, ancien leader du syndicat des fermiers blancs du Zimbabwe, était l'un de leurs porte-parole.
Quand le président est arrivé au pouvoir, il a lancé un appel à toutes les institutions financières pour qu'elles viennent investir. Il n'avait pas besoin de faire le tour du monde pour chercher de l'argent. C'est ici, nous avons juste besoin de la bonne documentation pour mettre en place une bonne sécurisation. Et je vous promets qu'en une nuit, il y aura un grand changement.
Parlant de documentation, Frimé fait référence à l'octroi des titres fonciers aux fermiers. La plupart des fermiers blancs ont été expropriés dans les années 2000 pour être remplacés par des agriculteurs noirs. Ces nouveaux fermiers n'ont aucune garantie de pouvoir rester sur leurs terres et n'ont aucune assurance pour emprunter de l'argent dans les banques. Sans ces garanties, selon Doug Taylor Frimé, les fermes ne peuvent être rentables. Pour sa part, le fermier Ronnie Masango, qui cultive du tabac, pointe du doigt le manque chronique de liquidité dans le pays. Il y a un an, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie locale, le dollar zimbabwéen, qui ne vaut plus rien sur le marché, pour une devise étrangère qu'on ne trouve nulle part. Selon lui, les choses ne vont pas s'améliorer tant que la banque centrale n'aura pas réglé le manque de liquidité et faire un effort pour préserver la valeur de la monnaie locale. Le fermier Ronnie Masango, producteur de tabac.
On nous a dit que le blanchiment d'argent est passible d'une peine de 10 ans de prison. Cette loi n'est-elle pas encore en place? Nous voulons de l'argent dans les banques, pas dans les rues. Le marché noir est la source de nos problèmes. C'est là où commence la corruption.
Le gouvernement appelle à la patience alors que sont mises en œuvre ce que le président Mnangagwa appelle des mesures d'austérité pour la prospérité. Celles-ci visent, selon lui, à réparer les dégâts des années de récession durant les 38 ans de pouvoir de l'ancien président Robert Mugabe. Ziyambi Zuyambi est le ministre zimbabwéen de la Justice.
Le marché noir n'est pas créé par la Banque centrale, mais par les pénuries. Nous avons besoin de mesures d'austérité et dès l'instant où notre production sera en hausse, cela fera disparaître le marché noir. Nous devons reconnaître l'absence de développement au cours des 20 dernières années.
Il reste à savoir si la Banque centrale zimbabwéenne est capable d'assurer la stabilité économique. Les protestations continueront si la situation n'évolue pas, a averti l'opposition.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la gouverneure de l'Alabama a signé hier la loi adoptée la veille par des législateurs de cet État du Sud-Est sur une interdiction quasi absolue de l'avortement. Il s'agit de la loi la plus stricte en matière d'avortement dans ce pays. Les précisions de John Lyndon.
Le Sénat, dominé par les Républicains, a voté 25 voix pour et 6 contre, faisant de l'avortement pratiqué à tout stade de la grossesse un crime punissable. En clair, tout prestataire de services d'avortement pourrait écoper d'une peine pouvant aller jusqu'à 99 ans ou à la prison à perpétuité. La seule exception serait lorsque la santé de la mère est sérieusement menacée. Andrea Miller, présidente de l'Institut national de santé de la reproduction.
Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé au Sénat de l'Alabama montre à quel point les enjeux sont élevés en ce moment, surtout lorsqu'un État envisage d'interdire totalement l'avortement et l'accès aux soins liés à l'avortement, non seulement sur son territoire, mais également dans le pays.
Les sénateurs ont rejeté une tentative visant à ajouter une exception pour le viol et l'inceste. Des législations limitant le droit à l'avortement ont été introduites cette année dans 16 États, y compris en Géorgie. Des législations souvent soutenues par le sommet. Brian Kemp, gouverneur de l'État de Géorgie.
Je comprends que certains s'opposent à cette législation, mais notre travail consiste à faire ce qui est juste et non ce qui est facile. Nous sommes appelés à être forts et courageux.
Un discours qui sonne juste pour Rachel Gay, militante anti-avortement et survivante de l'avortement.
Je remercie Dieu pour cette journée. Chaque jour, je me bats et je prie pour que l'avortement prenne fin. Mais je n'ai jamais vraiment pensé que nous verrions un jour comme celui-ci. Et je remercie Dieu pour un gouverneur qui se lève pour la cause des citoyens vulnérables de notre État. Alors, merci.
Pour bon nombre de partisans, le projet de loi sur l'avortement est conçu pour déclencher une procédure judiciaire qui pourrait amener la Cour suprême des États-Unis à revoir la décision historique de 1973 qui a légalisé l'avortement au niveau national. À ce jour, le Kentucky, le Mississippi, l'Ohio et la Géorgie ont déjà approuvé l'interdiction de l'avortement dès que le rythme cardiaque fœtal est détecté, ce qui peut se produire vers la 6e semaine de grossesse.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Michael Dubinsky, présentation Abdourahmadia et Morgane Guériec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.